Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Une fin de semaine placée sous le signe de la famille. 10 mois avant l'Assemblée Générale Extraordinaire du Synode sur les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation, on priera ce dimanche dans des lieux symboliques. Il y a 10 ans, la nouvelle de l'assassinat du nonce apostolique au Burundi suscitait une vive consternation. Monseigneur Courtenay était un artisan de paix dans ce pays déchiré. Les circonstances de cette attaque n'ont toujours pas été élucidées. Dans ce magazine, nos rendez-vous hebdomadaires avec les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile, mais tout d'abord la nouvelle de ce samedi, un message de Bachar al-Assad pour le pape François. Une délégation du gouvernement syrien a été reçue ce samedi au Vatican. Composée d'un ministre et d'un vice-ministre, la délégation était venue remettre au pape François un message du président Bachar el-Assad exposant la position du gouvernement syrien. Les deux émissaires ont pu s'entretenir avec le secrétaire d'État du Saint-Siège, Mgr Pietro Parolin, et avec le secrétaire pour les rapports avec les États, Mgr Dominique Mamberti. Aucune autre précision n'a été donnée sur cette visite ni sur la teneur du message. Depuis son élection, le Saint-Père a appelé plusieurs fois à une solution pacifique en Syrie. Début septembre, il avait organisé une journée de prière pour la paix en Syrie et s'était prononcé contre une intervention militaire envisagée à l'époque par les États-Unis et la France. Sur le terrain, l'armée syrienne mène depuis 2 semaines une campagne de bombardements aériens sur Alep, l'ex-capitale économique du pays. Cette offensive, qui a déjà fait plus de 400 morts, a été condamnée par les pays occidentaux et par des organisations internationales. Le régime affirme viser des terroristes installés parmi les civils. À l'occasion de la fête de la Sainte Famille, ce dimanche à l'Angélus, le pape François récitera une prière spéciale pour les familles qu'il a lui-même composée. À midi, la place Saint-Pierre sera reliée en vidéoconférence avec Madrid, Lorette, Nazareth et Barcelone. Madrid accueille en effet, en cette fin de semaine, la 7e rencontre européenne des familles. Par ailleurs, le sanctuaire de la Sainte Maison de Lorette en Italie, la basilique de l'Annonciation à Nazareth en Israël et la célèbre Sagrada Familia de Gaudi à Barcelone, ces 3 lieux symboliques ont été choisis pour préparer dans la prière le prochain synode des évêques. À Lorette, la messe sera célébrée par le délégué pontifical, Mgr Tonucci. À Nazareth, par le secrétaire général du synode, Mgr Baldisseri. À Barcelone, par Mgr Vincenzo Paglia, président du conseil pontifical pour la famille. Et en Espagne, justement, la conférence des évêques profite de cette fête pour demander la réintroduction immédiate dans la législation des termes père, mère, époux, épouse, afin que la distinction des sexes soit rétablie. Les catholiques espagnols considèrent la famille comme une valeur essentielle. Après avoir vivement contesté le gouvernement socialiste de Zapatero, qui a notamment libéralisé l'avortement et autorisé le mariage gay, les catholiques espagnols restent mobilisés pour faire entendre leur voix, même s'ils se félicitent du tournant amorcé par le Parti populaire actuellement au pouvoir et notamment du récent projet de loi visant à restreindre l'IVG. À ce propos, Xavier Sartre a interrogé le père Patrick Royanet de la paroisse française de Madrid.
La généralisation des moyens contraceptifs n'a pas énormément fait baisser le nombre d'avortements. On peut même dire que le nombre d'avortements reste stable. Donc il y a un vrai problème. Et ce problème, il est celui de l'éducation sexuelle et affective. Il est celui d'une société où, manifestement, des personnes n'ont comme seul recours, pensent-elles, que l'avortement. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est ça, à mon avis, notre question pastorale. Qu'est-ce que nous faisons pour rencontrer ces personnes, le plus souvent les femmes. Parfois, elles sont quand même accompagnées par leurs conjoints ou leurs compagnons. À mon avis, une loi ne règle pas les problèmes.
Dans l'optique du prochain synode sur la famille, toutes ces questions vont évidemment revenir au premier plan. Est-ce que, selon vous, justement, l'accompagnement des familles, la pastorale de la famille devrait être revue pour éviter d'en arriver à des extrémités pareilles ?
C'est plus plus compliqué que ça, parce que je pense que la grande majorité des avortements ont lieu quand même en dehors des gens qui sont directement touchés par notre pastorale familiale. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun chrétien qui pratique l'avortement, mais les chrétiens qui sont quand même plus distants par rapport à une pratique de l'avortement. Du coup, c'est un problème qui touche la société et qui pose la question de la place de l'Église et de son enseignement dans la société. L'Espagne est confrontée à une perte radicale de son influence dans la société. Donc la question, elle est d'abord comment l'Église témoignera qu'elle est le lieu de la miséricorde au sens non pas d'abord du pardon, mais au sens de la pitié. Comment nous avons pitié des gens, comment nous sommes pris aux entrailles, hein, comme Jésus qui est devant cette foule, il est saisi aux entrailles, voilà. Et je crois qu'une des choses que fait le nouveau pape et invite à faire le nouveau pape, c'est quand même que cette église soit une église qui soit prise de pitié devant ce monde. Alors peut-être que si nous savons déjà témoigner de cela, non au sens négatif que nous prenons en pitié, nous regardons de haut la société espagnole, mais ou la société civile, mais au sens où vraiment nous sommes émus par ce qu'elle vit, peut-être que nous serons mieux positionnés pour aider ceux qui en ont besoin, et la pastorale familiale se développera encore davantage.
C'était le père Patrick Royané de la paroisse française de Madrid. Et pour le président du Conseil pontifical pour la famille, il est urgent de revendiquer le rôle central des familles qui sont, selon Mgr Paglia, ignorées par la politique, exploitées par le monde économique et malmenées par la culture dominante. Mais quand on affaiblit la famille, avertit Mgr Paglia, c'est toute la société qui en souffre. Strasbourg accueille jusqu'au 1er janvier la 36e rencontre des jeunes européens organisée par la communauté de Thésée. Les jeunes vont se réunir dans plus de 200 paroisses d'accueil des deux côtés du Rhin, en France et en Allemagne, pour des moments de prière et de partage. À la mi-journée, le soir, ils se retrouveront pour les prières communes. Comme chaque année, les principaux responsables chrétiens ont adressé des messages de soutien aux participants. Olivier Bonnel.
Pour le patriarche orthodoxe russe Kirill, il est urgent de favoriser l'unité et la fraternité dans un monde globalisé, mais déchiré par des conflits entre le Nord et le Sud, entre couches sociales, entre fidèles des différentes religions. L'unification de l'humanité sur la base d'intérêts purement économiques est irréalisable. Seul l'Esprit de Dieu peut nous aider à surmonter les différences nationales ou sociales. Le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises brosse lui aussi un sombre tableau de la situation mondiale. Intolérance, chômage, guerre, crise économique et catastrophes naturelles. Il déplore les attaques contre les lieux de culte et la violence confessionnelle. Dans ce contexte, les jeunes ont un rôle particulièrement important à jouer dans le pèlerinage pour la justice et la paix, ainsi que dans la vie des églises et du mouvement œcuménique. Faisant allusion à une récente campagne de marketing personnalisée, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, souligne pour sa part que l'Église n'a pas à se mettre au diapason des techniques de marketing pour essayer de placer son produit. « Nous ne vendons pas de marchandises », écrit-il. « Notre passion, c'est Jésus-Christ, le Dieu qui sait exactement qui nous sommes et ce dont nous avons besoin. » Le secrétaire général de la Fédération luthérienne mondiale invite les jeunes à s'associer à un jeûne interreligieux pour la justice climatique à partir du 1er janvier. Enfin, le secrétaire général de la Communion mondiale d'Églises réformées souhaite que la rencontre de Strasbourg aide les chrétiens à surmonter leurs divisions, afin qu'ils puissent prier et agir ensemble pour transformer le monde.
Il y a 10 ans, le 29 décembre 2003, le nonce apostolique au Burundi, Mgr Michael Courtenay, était tué par des tirs d'armes à feu. La voiture à bord de laquelle il voyageait était tombée dans une embuscade à une cinquantaine de kilomètres de Bujumbura, la capitale. Au Vatican, Jean-Paul II s'était immédiatement recueilli en prière. Le mobile et l'auteur de ce meurtre demeurent inconnus. À l'époque, le Burundi était en pleine transition après une guerre civile sanglante qui a fait près de 250 000 morts et une cohabitation difficile entre Hutu et Tutsi. Selon un membre de la communauté catholique Santé Gidio qui a œuvré en tant que médiateur pour la réconciliation dans ce pays, Mgr Courtenay a été tué parce qu'il s'efforçait d'obtenir un accord de paix. Il avait pris sa mission très au sérieux, raconte le père Angelo Romano. Il se déplaçait dans le pays pour visiter les diocèses et n'avait pas peur de prendre des risques. Depuis, note encore le père Romano, le Burundi n'a certes pas surmonté tous ses problèmes, mais les ennemis d'hier qui s'entretuaient siègent côte à côte au Parlement. Et cela aussi grâce au sacrifice de personnes courageuses, comme le nonce apostolique, Mgr Courtenay. Corée du Nord, les chrétiens ont célébré Noël dans des tunnels souterrains au péril de leur vie. Dans ce pays, les chrétiens savent qu'ils risquent leur vie chaque fois qu'ils prient. Dans une interview à l'agence de presse Asian News, un exilé a relevé qu'en Corée du Sud, il y a de nombreuses églises, mais que c'est en Corée du Nord que les prières sont les plus ferventes. À Séoul, une association s'efforce d'aider les chrétiens à fuir le régime de Pyongyang. Ces derniers temps, elle serait parvenue à en faire fuir un millier. Le nombre des followers du compte Twitter du pape François atteint les 11 millions. @pontifex existe en 9 langues. En tête du peloton, les hispanophones avec près de 4,5 millions de followers, suivis des anglophones, près de 3,5 millions. Les francophones arrivent en 5e position avec 224 000 followers. La langue arabe arrive en dernier avec près de 104 000 followers. Et justement, sur ce même compte, @pontifex, le président iranien Hassan Rouhani a fait parvenir un message de vœux au pape François à l'occasion de Noël, naissance du Christ, prophète d'amour, de miséricorde et d'amitié. Le président iranien formule des vœux pour une nouvelle année pleine de paix et de prospérité. Pour terminer l'année 2013, un livre pour Dieu dont le titre est évocateur, « Il n'y a qu'un amour », écrit par Noël Haussmann. L'auteur nous explique le titre de son ouvrage et les thèmes qui en découlent. Les figures de Marie et de Joseph, d'après l'écriture. Les figures de l'histoire, avec Claire d'Assise et les béguines, et l'importance des dévotions. Noël Haussmann est interrogé par Catherine Aubin.
J'ai emprunté ce titre à Saint Augustin. Finalement, il n'y a que l'amour de Dieu qui se dit dans l'amour des hommes. Depuis que Dieu s'est fait homme, dans l'amour des hommes se dit aussi l'amour de Dieu. C'est aussi simple, et toutes les vocations ecclésiales font référence au même mystère de fiançailles et d'épousailles du Christ avec l'Église.
Il n'y a qu'un amour, et vous avez dit donc que c'est l'amour de Dieu qui traverse toute l'histoire, et vous avez divisé votre livre d'après l'écriture, la Bible, les figures de l'histoire avec Claire d'Assise et les béguines. Et parlez-nous des béguines.
J'ai voulu, comment on le fait en théologie, n'est-ce pas, prendre mon départ dans l'écriture sainte, parce qu'on ne peut pas comprendre le visage de la Vierge Marie si on ne retourne pas à toute l'écriture qui la précède, notamment dans ce fameux refrain de Saint-Luc, elle gardait ces choses en son cœur. Marie est ici le point d'arrivée de cette méditation amoureuse, il faut le dire, du peuple d'Israël aimé par son Dieu. Et donc, j'ai voulu partir de l'écriture, mais aux côtés de Marie, il y a Saint-Joseph, bien sûr. Cette paternité de Dieu qui se dit en lui comme un effacement, comme un grand silence, comme une protection qui demeure même en dehors des évidences, j'ai voulu la mettre moi aussi un peu en exergue. Après ça, j'ai voulu montrer que c'était pareil dans l'histoire de nos vies. En prenant quelques figures comme Sainte-Claire dans sa relation de proximité, mais aussi de distance avec François d'Assise, c'est pareil pour ces fameuses béguines et toutes celles qui ont permis à la mystique de l'être, en partant, elle, de la mystique de l'amour. Ces femmes simples qui ont réussi cette extraordinaire nouveauté architecturale du béguinage, de la ville dans la ville, et qui sont en fait des pures émergences de la dévotion populaire. Et elles ont passé leur vie à réciter des prières vocales, et avec ça, elles ont mis à jour une forme de vie consacrée et ecclésiale extrêmement féconde encore pour le monde d'aujourd'hui.
Il y a une très très belle phrase dans votre livre où, oui, dans la présentation, vous dites « Les dévotions représentent la fine fleur de l'engagement, ah, oui, du cœur croyant. » Expliquez-nous.
Oui, je veux dire que ce qui demeure à travers les âges, c'est toujours les dévotions populaires. Les grandes avancées doctrinales sont nées de là. Il n'y a pas de choix impérieux à faire entre la grande théologie et les petites dévotions. C'est du cœur chrétien tel que Dieu le rejoint dans les pèlerinages, dans ce toucher qui est si propre aux âmes simples que nous sommes aussi, n'est-ce pas? C'est là que, à travers les âges, l'Esprit Saint continue à parler au cœur chrétien. Il n'y a pas de foi sans expérience sentie de Dieu. Comment vivre sans exprimer sa foi? Comment vivre sans cette gestuelle qui nous montre à quel point Dieu a pris corps dans notre histoire? Et dans notre corps, nous faisons l'expérience de Dieu. Dans nos sens.
Le titre de votre livre, c'est « Il n'y a qu'un amour » et il y a une très très belle représentation de Marie.
Alors c'est une partie d'une peinture d'Ascabas et ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que les cheveux de la Vierge prennent feu à la voix de l'ange. Quand Dieu parle à l'oreille de l'homme, quand Dieu s'approche de nos cœurs, pour nous, c'est une immense flamme d'amour qui se lève depuis l'intérieur et qui nous touche jusqu'à la pointe de nos cheveux.
Noël Haussmann, auteur de l'ouvrage « Il n'y a qu'un amour ». Et c'est l'heure de retrouver le père Pascal Montavi pour le commentaire de l'évangile de ce 29 décembre, dimanche de la Sainte Famille. Et c'est l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 15 et 19 à 23. C'est le récit de la fuite en Égypte et de l'installation de Jésus, Marie et Joseph à Nazareth, en Galilée.
Dans cet épisode, nous voyons avant tout Jésus, fils de Dieu, enfant sans défense, confié à une mère et un père. Dieu lui-même, nouveau-né dans la chair, se confie totalement à un couple qui va le protéger, prendre soin de lui et permettre qu'il grandisse en taille et en sagesse. Dieu confie son fils Jésus à un homme et à une femme durant toute son enfance. Cette particularité nous montre combien la famille fait partie de l'ordre naturel de la création voulue par Dieu pour permettre à un enfant de grandir et de devenir adulte. Mais qu'est-ce qu'un couple peut faire pour sauver un enfant alors que le roi lui-même, Hérode, a décidé de sa mort? L'histoire montre que c'est bien la famille qui en ressort vainqueur avec l'aide de Dieu. Cet épisode nous dévoile aussi le vrai visage du Seigneur qui annule les fausses images d'un Dieu uniquement tout-puissant. Certes, Dieu est tout-puissant, mais il se rend aussi vulnérable dans les mains des hommes. C'est ce que nous vivons à chaque Eucharistie. Par sa présence réelle dans l'hostie consacrée, Dieu se livre aux mains des hommes qui, parfois, abuseront du pouvoir qui leur est donné. Dieu se fait pauvre et vulnérable afin que nous n'ayons pas peur de nous approcher de lui. Qui pourrait craindre un Dieu qui se livre ainsi aux hommes? Dieu se fait tout petit pour que l'homme ose l'aimer, le découvrir et se mettre à sa suite. Dans ce passage de la fuite en Égypte, Marie ne dit rien. Elle suit Joseph à qui l'ange du Seigneur donne ses instructions. Une femme qui vient de mettre au monde un enfant et qui doit fuir en Égypte, pourrait légitimement s'interroger sur la logique du plan de Dieu. Un tel voyage n'est-il pas trop risqué pour le nouveau-né? Elle qui est tombée enceinte par l'action de l'Esprit-Saint sait que le bras du Seigneur n'est pas trop court pour accomplir prodiges et merveilles. Et pourtant, dans ce cas précis, l'ange du Seigneur commande la fuite. En cela, la Sainte Famille revit l'histoire même d'Abraham. À peine arrivé sur la terre que Dieu lui a promise, Abraham doit repartir avec tout son clan en Égypte, car une famine sévit au pays de Canaan. Le Seigneur accomplit ses promesses, mais les épreuves ne manquent pas. Marie nous donne l'exemple de celle qui accepte ces épreuves sans rien dire, mettant toute sa confiance en Dieu et en Joseph, qui lui a été donné comme époux. Enfin, Joseph témoigne d'une obéissance parfaite. L'ange du Seigneur lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte ». Alors Joseph se lève dans la nuit, prend l'enfant et sa mère et se retire en Égypte. Puis l'ange du Seigneur lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et reviens au pays d'Israël ». Et Joseph prend l'enfant et sa mère et rentre au pays d'Israël sans poser aucune question. Mais l'obéissance de Joseph n'exclut pas non plus la raison. Il est dit qu'apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée, il eut peur de s'y rendre. C'est ensuite que l'ange du Seigneur lui indique de se retirer en Galilée plutôt que d'aller en Judée. L'obéissance de Joseph est donc totale, mais elle n'est pas celle d'un robot sans intelligence. Il se rend compte du danger qu'il y a à retourner en Judée. L'ange du Seigneur vient par la suite, le confirmer dans sa crainte. En ce dimanche de la Sainte Famille, prions pour que notre société sache reconnaître que rien ne peut remplacer une famille pour permettre à un enfant de grandir. C'est ce que Dieu lui-même a choisi pour Jésus.
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français. Bon dimanche à tous.